9h dans le bureau de Parjupiter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Aujourd'hui, c'est Parjupiclasse.
Eh ben, on sait, on sait.
J'ai oublié de faire les toits.
Non, mais j'aimerais qu'on accueille comme il se doit l'un de nos illustres camarades.
Oh, Philippe Poutou.
Adèle Van Rett.
Non, celui qui va faire la Jupi Masterclass de cinéma aujourd'hui, Frédéric Sigrist.
Ah, on l'adore, mais Frédéric Sigrist, Masterclass de cinéma, franchement.
Mais, non, mais j'avoue, c'est comme si on demandait à Sébastien Chabal de faire du patinage artistique.
Il s'y connaît un peu quand même. Il a une émission qui s'appelle Blockbuster.
Bah, Sébastien Chabal, il s'y connaît en sport en ce moment-là.
En sport qui cogne, quoi, tu vois.
Attends, ce que je comprends pas.
C'est sûr qu'il va faire un film où ça casse. Mais
oui, c'est sûr, il va faire des super-héros habillés en leggings qui sauvent le monde des forces du mal.
Mais facile, attends, je suis sûr, il va faire Batman.
Ah oui,
il
n'y
a pas de suspense, c'est Batman.
Ah si, bah déjà, quel Batman? Je veux dire, entre George Clooney et Christian Bale, il y a un fossé, pardon.
Ouais, si tu le dis.
Bah oui.
Moi, je connais rien en super-héros.
Bah enfin, si, Alex, t'as bien un super-héros préféré?
MacGyver, j'aime bien.
Ah oui, attends, c'était quoi son super-pouvoir?
Bah avec une boîte à outils incomplète et une conserve de sardines, il est capable de fabriquer un hélicoptère.
Et toi, Guillaume?
Moi, ce serait Guillaume Hocquet. Et son super-pouvoir, c'est qu'il est résistant.
Ok, oui, bon bah du coup risque de vous apprendre des choses quand même Frédéric Sigrist alors.
Et toi Charline, c'est quoi ton super-héros préféré?
Oh moi tu sais, j'ai pas vraiment d'idole.
Oh si, arrête, qu'est-ce que t'avais Charline en poster dans ta chambre quand t'étais gosse? Ouais. Wonder Woman, Superman, Spiderman.
Chevenman.
Qui c'est?
Jean-Pierre Chevenman.
Oh là là.
Ouais,
il a un super-pouvoir, hein, il revient du nerf.
Ouais, mais non. Pardon la France Inter.
Pardon la France Inter. Car vous avez mis les oreilles dans le petit atelier du jeu de mots.
Oui, il faut essayer des choses.
Effectivement. Voici le dicton du jour. Mieux vaut être seul que résident chez Orpéa. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Vous poursuivez la lecture de Gargantua, c'est votre première fois avec Rabelais. Et vous nous rappelez à quel point c'est cliché de le réduire à ceci.
Que vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Une chronique chrono en main pour équilibrer le temps de parole des candidats. Le déficit de qui allez-vous combler aujourd'hui?
Alors, équilibrage du temps de parole de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen aujourd'hui. On va parler vote utile à l'extrême droite. Donc, j'ai interrogé des militants et il y a une bonne ambiance générale, je dirais.
Lui, c'est un incapable total.
Bah, ça se passe bien, ça se passe bien. Le groupe vit bien, comme on dit.
Et la Jupi Masterclass de cinéma vous est offerte donc par Frédéric Sigrist. Bonjour Frédéric.
Bonjour Charline.
Vous partagerez avec nos auditeurs l'un de vos films préférés, The Incredible Hulk, de Louis Leterrier. En français, l'incroyable Hulk.
Ho, ho, ho.
Mais on change pas une équipe qui gagne. Non, merci François Audouin.
Ça marche.
Vraiment, raffinement.
Et aujourd'hui, toujours dans le raffinement, bien sûr, Alex Vizorek.
Que des super-héros, l'équipe de la WIN. Celle qui est moins disposée à nous parler des accords de Yalta que des accords du participe passé, c'est Laëlle Yaveyron. Bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
On va parler de slogans et de déterminants.
Très bien.
Ah ben ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé.
Celle qui, en matière d'accords, privilégie ceux qui sont doux pour contraster avec les paroles de ses chansons, c'est Guédré. Bonjour.
Et bonjour.
Qu'est-ce qu'on va chanter
aujourd'hui? Je me suis posé la question en chanson, s'il fallait mieux faire des enfants ou des téléphones.
Très bonne question. Et enfin, celui qui n'est pas souvent d'accord avec lui-même, ce qui nous assure des chroniques pondérées, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour.
Ouais, bonjour.
De quoi on va chroniquer?
Je sais pas, parce qu'après ce que j'ai entendu là, moi je suis off.
Bon, ben, au revoir. Au revoir Hippolyte.
Eh bien,
salut.
Merci.
Ah, bon, merci. Salut Philippe.
Salut Guillaume.
C'est gentil d'être venu.
C'est sympa. Hein.
Ajoutez à cela un journal un peu futile, des exercices pas bien subtils, un dessin souvent débile, et vous obtenez le premier Jupi Classe du mois d'avril.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupi Classe. Au boulot.
Au boulot, Frédéric Sigrist, donc, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Merci, Frédéric.
Avec plaisir.
Alors, on vous connaît bien sûr pour votre podcast Blockbuster, émission aussi bien sûr l'été. Et puis, vous avez un spectacle qui s'intitule Super Héros, que vous jouez au théâtre Le Funambule à Paris jusqu'à la fin avril. C'est les lundis et mercredis à 19h et 21h. Est-ce que ce spectacle Super Héros est justement dans l'esprit de ce qu'on peut entendre dans Blockbuster?
Alors, c'est évident que si jamais on écoute Blockbuster, il y a des similitudes, parce que j'ai décidé de pas me fouler et d'être moi-même tout le temps. Mais en fait, c'est surtout sur le pouvoir de la fiction et sur ce côté cathartique, justement, des univers imaginaires et tout ça. Et je trouvais qu'après 2 ans de confinement, à avoir regardé des séries pour oublier qu'on était enfermé, pour voilà supporter les vicissitudes, les discours de politiciens, les discours de haine aussi de temps en temps. La pop culture a été plus que jamais d'utilité publique. Mmh. Et moi j'ai personnellement eu de gros drames qui ont fait que j'ai eu besoin de me tourner encore un peu plus que d'habitude vers les univers imaginaires. Et j'avais le choix, soit je faisais une thérapie et je payais, soit je faisais un spectacle et je faisais payer les gens. Et je suis névrosé, oui, mais je suis surtout à Proguin. Donc voilà.
Frédéric Sigris, quand vous dites « je parle des super-héros, je voulais être moi-même », on en parle.
Non mais c'est la thérapie.
Oui,
non mais parce que c'est évident que en plus là je suis bien entouré parce que tout ce que je fais si je me gargarise moi-même de ça, mais c'est avec l'illusion que ça va avoir un impact, que ça va faire bouger les choses, etc. C'est-à-dire que moi en fait même parmi les auditeurs qui ne nous aiment pas au genre de choses, moi j'ai envie de leur faire changer d'avis et j'ai envie que tout le monde soit heureux. C'est très cucu, mais moi j'aime vraiment bien quand les gens sont contents, quand ils kiffent, etc. et qu'ils s'aiment les uns les autres et tout ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée. J'aurais pu faire un très très bon pasteur hein, dans une autre vie aussi. Hein.
On a essayé ça hein, déjà. Ça fait 8 ans.
Oui. Mais je sais.
Ah, voilà, je le dis. Hein,
mais l'important n'est pas le but, mais le chemin.
Frédéric Sigrist qui nous offrira donc une chronique cinéma à la fin de cette émission. Et donc votre spectacle Super-héros se joue à Paris, c'est dans le 18e jusqu'à fin avril au théâtre Le Funambule. Nous vous le rappellerons bien sûr tout à l'heure, car parfois vous êtes un petit peu distrait chez vos auditeurs et vous oubliez les choses. La meuf est linguiste et elle a du style aussi, puisqu'elle est stylisticienne.
Oh, quel enchaînement!
N'a rien à voir avec les fringues, mais c'est les mots.
Elle est bien habillée, elle a des super pouvoirs.
Ouais. C'est là, Elia Véron.
Merci, Charline. Aujourd'hui, je voulais vous parler de grammaire, d'énonciation et de slogans politiques. C'est un sujet étudié en linguistique par Raphaël Haddad notamment. Vous avez entendu parler du fait qu'Emmanuel Macron, dans un meeting le 2 avril, a repris un slogan. Ok, vous le savez. Alors, quel slogan?
Celui de nos vies valent plus que leur profit.
Voilà, nos vies valent plus que leur profit. Un slogan historique du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Et c'était déjà le slogan d'Olivier Besancenot lors de précédentes campagnes présidentielles. Voilà, donc on a bien compris pourquoi Macron ne voulait pas débattre avec Poutou. Il est déjà convaincu, hein, il a repris son slogan. Mais plus sérieusement, bien sûr qu'on peut voir dans cette reprise une tendance assez généralisée et cynique à reprendre n'importe quel mot ou formule politique et à la vider de son sens. Mais en réalité, il n'a pas répété mot pour mot le slogan. Il a un petit peu changé. Est-ce que vous avez vu comment ?
Non.
Il a dit « Nos vies, leur vie, valent plus que tous les profits ». Donc, en réalité, il ne dit pas « nos vies », mais « nos vies, leur vie ». Et il ne dit pas « leurs profits », mais « tous les profits ». Donc, il y a une petite variation concernant les petits mots devant le nom qui s'appellent...
Les déterminants.
Les déterminants.
La rapidité, quoi. Bravo. Qui s'appellent des déterminants. Je t'aime, Juliette. Qui ont beaucoup d'importance syntaxique et sémantique. Hein. En recherche, je renvoie aux travaux de Daniel Lehmann et Marie-Noëlle Gary-Prière. En grammaire, on dit que les déterminants ont un rôle référentiel, c'est-à-dire qu'ils vont rattacher le sens du mot à un contexte. De quelle vie, de quel profit parle-t-on ? C'est pas la même chose de dire « nos vies valent plus que leurs profits » et « nos vies, leurs vies valent plus que tous les profits ». Le premier slogan, « nos vies valent plus que leurs profits » choisit d'être clivant. Les déterminants possessifs renvoient à des entités opposées, eux, nous, hein, c'est la tendance NPA, de toute façon, leur guerre, nos morts, par exemple. Et donc des entités opposées qui correspondent à des clans politiques opposés. Et le « nous » veut inclure le locuteur et son public, « ma vie, ta vie, nos vies », et l'opposé à un tiers, leur profit capitaliste. Mais lui, Macron, va cumuler nos vies et leur vie. Et finalement, ça peut désigner lui, le public du stade et les autres en dehors, tout le monde. Et de même, il ne dit pas leur profit, mais tous les profits. Il enlève une allusion personnelle. C'est sûr que vos vies valent mieux que nos profits, ça aurait été bizarre.
Mais, ça aurait été honnête.
Ça peut être un peu plus. Mais avec cette nouvelle formule, sans possessif, on ne parle plus d'une opposition d'adversaires politiques, mais de principes moraux généraux. Et finalement, avec ces deux slogans, vous avez, me semble-t-il, deux visions différentes de la politique. Le slogan du NPA assume de tracer des camps politiques. Macron se présente comme au-dessus des camps. Le locuteur du slogan « Nos vies valent plus que leurs profits » propose une vision de l'identité politique collective construite dans la conflictualité d'une lutte, ici anticapitaliste, et celui de nos vies, leur vie, valent mieux que tous les profits, prétend se situer au-dessus de la lutte et de tout conflit d'intérêts. Et finalement, c'est intéressant, Macron reprend un slogan connu qui a une certaine force politique, tout en lui enlevant son côté clivant, pour se poser en rassembleur, et d'ailleurs son slogan de campagne est « Nous tous ». Pour finir, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut faire circuler tout slogan d'un camp à l'autre avec autant de facilité? Alors pas sûr, hein, même si certains osent tout. qu'est-ce qu'ils font comme
ça qu'on les reconnaît.
Mais voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il va être quand même difficile pour Macron d'arriver à faire rimer, par exemple, un mot d'ordre comme « L'arme des travailleurs, c'est la grève » avec « Nous tous » ou encore « Projet ».
Effectivement. Là, il y a Véron, merci. Alors, j'en ai noté un autre que j'ai entendu dans un clip de campagne énoncé par Marine Le Pen, qui dit « Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi ». Et si je ne m'abuse, il me semble que c'est un slogan des syndicats, même en Amérique latine. Je pense que Santiago Amigorena, il fait référence à son dernier roman d'ailleurs, donc il y a des chances que ce soit ça.
C'est années 60 à mort, ça.
Exactement, voilà. Ouais, c'est prononcé possible. Par Marine Le Pen. Donc, autre exemple. Ça donc, on va être vigilant, là, il y a Véron.
Je l'aurais mis dans une autre année, Marine Le Pen. Une vingtaine d'années avant les années
60. Oui, vous auriez mis géographiquement.
Quand même, on est passé de Chevènement à une chronique très brillante comme ça. C'est waouh! Faut être souple, hein.
C'est la douche écossaise. Ouais, faut être souple, c'est vrai. On mise tout sur nos adducteurs, sur France Inter. Dans Par Jupiter, classe, terre, mercredi. Juliette Arnaud, vous avez reconnu le titre immédiatement.
Bien sûr, The Blank Generation.
Ouais.
C'était vraiment un hymne punk.
De
Richard Hell and the Voidoids.
Ouais, bien. Vous aurez un bon bulletin pour ce trimestre, Juliette.
Oui,
bravo, merci.
En grammaire et en musique, bravo
en
Juliette.
En musique. Ouais. Et à venir, bien sûr, la suite de Gargantua avec vous, mais en attendant, un journal.
Chère vieille France.
Je vous ai compris!
Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil? Ou...
Le journal de presque 17h17.
Je vais vous parler du bon choix.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, j'envoie la rhubarbe.
Et on commence par les titres.
La petite polémique autour du cabinet de conseil McKinsey rebondit car le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
30e affaire qui touche le gouvernement de près ou de loin depuis le début du quinquennat. J'espère vraiment que c'est pas McKinsey qui leur avait vendu l'idée de la République exemplaire parce que clairement sur ce coup-là ils peuvent dénoncer le contrat.
Et oui. 6 fromages vendus en grande surface dont un Brie et des Coulommiers sont rappelés pour risque de listériose.
Oui, E. coli dans les pizzas, salmonelle, dans les Kinder, listeria dans les fromages. Contrairement aux périodes de confinement, cette fois-ci, il y aura une vraie raison s'il y a une pénurie de PQ.
Et de brèves.
Eh oui, Charline, elles sont toutes fraîches, mais brèves. Aucune raison de les retirer du marché. Je suis désolé. Commençons donc par l'invité du matin de Léa Salamé.
Et de Nicolas Demorand, bien sûr, car sur nos ondes, Éric Zemmour a affirmé qu'après le 25 avril, il sera, je le cite, soit président de la République, soit chef de l'opposition.
Oui, soit un peu comme d'habitude, mis en examen.
Oui, passons à l'invité d'hier soir, de Léa Salamé sur France 2.
Oui, sur France 2 dans Élysée 2022, quand Léa Salamé a annoncé à Philippe Poutou qu'il allait laisser sa place à Éric Zemmour, le candidat NPA a dit...
Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ?
Eh oui, et c'était une question et Léa Salamé n'a pas répondu à la question alors que la réponse était facile. La réponse, c'était pas non.
Passons
alors attendez, parce que oui. Du coup, après Zemmour, c'était l'invité lui de Léa Salamé.
Oui.
Et donc hier soir, elle a passé la soirée avec lui. Ce matin, au réveil, c'est réveillé avec lui.
C'est, bah, non, mais attendez, c'est pour l'interviewer.
Mais qu'est-ce qu'elle peut encore avoir comme question à lui poser ? Mais à part la marque de son slip, à un moment, elle lui a tout demandé là.
C'est bientôt fini. Plus que 18 jours de campagne et nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire des informations sans Léa Salamé dedans. C'est difficile à trouver en ce moment.
Un bon tiers du journal. Passons aux écoutes judiciaires qui montrent, attention, contrairement à ce qu'avait affirmé l'Élysée, que la situation judiciaire de Michel Platini a bien été évoquée lors d'une rencontre entre le président de la République et l'ancien numéro 10 des Bleus, et il en serait sorti ceci de la bouche de Platini.
Oui, on me blanchit complètement ou je me casse. Sous-entendu de France, au revoir et c'est fini, aurait-il déclaré.
Ouais, Michel Platini, le Florent Pagny du football français.
Sécurité routière à présent, selon le dernier baromètre du comportement des Français sur la route, 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant.
Ouais, ce qui veut dire qu'en cas d'accident mortel, il est fort probable que l'un des deux chauffards qu'on pourrait considérer comme un assassin est donc un mobile. Et c'est déjà ça. Le téléphone.
L'enfer qui existe.
Allez, une page gastronomie.
Attention.
Ah non, il y a encore un jeu de mots ?
Non, mieux que ça. Un article d'un journal belge, la dernière heure, titré « Le meilleur pastis du monde est belge ».
Mais non !
Mais oui, c'est mais oui, non. C'est oui. Mais non. Je lis, taisez-vous, c'est moi l'actualité.
Bien, parce que Mélenchon.
L'actualité, c'est moi.
Les frères noblesse.
Regardez comment il tient ses feuilles. Attendez. Faut que je dise à l'auditeur, il tient ses feuilles.
Vous voudrez pas qu'on les enlève.
Avec ses deux petites
mains.
Avec ses demi-mines très très fortes pour pas qu'on lui vole ses feuilles.
Attention.
Allez-y. Attendez, on va le refaire.
C'est un journal belge qui dit ça.
Je vous donne après.
On a perdu le fil. Gastronomie de France.
Oui, le meilleur pastis du monde est belge, Charline.
Mais non.
Mais si. Les frères noblesse ont décroché la médaille d'or au concours international de Lyon après avoir décroché la médaille d'or à Bruxelles en 2021.
Mais non.
Mais oui, on avait gagné chez nous. Alors ils ont dit les Français, oui, mais c'est pas le pays. Et on est venu gagner chez eux, le pays du pastis. Ça, je peux vous dire qu'il y en a qu'on le somme. Rien va nous arrêter. On va gagner le championnat du monde du ramen à Kyoto. Ça va être vite réglé. On a la win.
Mais après, vous qui dites toujours que la bière française, ça n'existe pas alors.
Le pastis belge, j'ai été surpris. Hein. Je vous cache pas que j'ai un peu surjoué parce que.
Ça fait pas vu.
Je savais même pas que ça existait.
Détendez-vous. S'il vous plaît, vous reculez du micro parce qu'on n'entend plus rien du tout. On n'entend plus, il n'y a plus d'émission. Reculez-vous tous du micro.
Les gens, ils veulent les infos. Hein,
je sais, parce que ça va être les brèves et donc on n'est pas à l'abri. Pour rigoler, reculez-vous, on n'entend plus rien. Je vous le dis. Hein,
gagnant français de l'euro million a donné la majeure partie de son gain de 200 millions d'euros pour la protection de la planète. Et ça, c'est un très beau geste voilà, qui suscite beaucoup de réactions, énormément de gratitude du côté des militants écologistes et énormément d'incompréhension du côté de Laetitia Hallyday.
Et là, dans le studio, tout le monde rit très 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 fort, mais un peu plus loin du micro. Et donc,
Les
gens sont partis du studio. La dernière.
Voilà, c'est un peu plus pour rattraper les grosses têtes, la dernière.
Je
préfère le dire avant, comme ça vous allez
nécessaire.
Un passager arrêté après s'être masturbé 4 fois durant un vol. Oui, on rappelle que dans un avion, seul le pilote peut tirer sur le manche, bien évidemment.
Ah oui, ça aurait été dommage de ne pas la faire. Oui, on serait passé à côté de
vraiment, moi je serais resté sur le pastis, mais bon.
Mais bon, je ne voulais pas trop la ramener, voyez-vous.
Vous avez bien travaillé, Alex, vous méritez un bon point. C'est-à-dire une petite promo pour dire que vous serez, mais c'est maison, vous serez le récitant de l'histoire du soldat de Stravinsky avec les musiciens.
Le gars peut vraiment tout faire.
De l'Orchestre National de France ce dimanche à 11h à l'auditorium de Radio France et les places sont disponibles sur le site maisondelaradiodelamusique.fr.
Mais je croyais.
Il y aura des blagues de
top. Aucune blague de top.
Mais je croyais que c'était. Sérieux. Lui, c'était l'actualité. Je comprends
c'est
pas.
C'est la musique
classique.
Il fait tout. Concentrez-vous, Juliette, parce que ça va être à votre tour, je crois.
Exactement. Merci de me repasser le micro. Deuxième partie de votre lecture de Gargantua de François Rabelais, Juliette. Rabelais qui ne se résume pas à l'art de vivre à la française, nous disiez-vous mercredi dernier. Gargantua, le géant, vous a fait rire, et pas que d'un rire de ventre, d'un rire de tête aussi. Et vous nous aviez mis l'eau à la bouche en évoquant l'école inventée par Rabelais. École qu'il appelle l'abbaye de Thélème, dont la devise est « Fais ce que tu voudras ».
Voilà, « Fais ce que tu voudras » comme devise d'une école. J'entends littéralement d'ici tous les têtards auditeurs de Par Jupiter bramer « Oui, oui, moi, je veux intégrer l'abbaye de Thélème ». Alors les enfants, je vous comprends bien, mais attention, ascenseur émotionnel, l'abbaye de Thélème est une utopie. C'est même la première utopie de la littérature française. Rabelais, qui avait endossé, lui, quand il était un jeune homme, la robe de bure, des moines, pas tant qu'il aimait beaucoup Dieu, mais pour pouvoir étudier tout son sou et accéder à toutes les bibliothèques disponibles de son époque, tout en ne portant pas franchement les moines et leur système dans son cœur, Rabelais, lui, il avait tranquillement déserté le service religieux pour apprendre la médecine et devenir toubib. Bref, il avait fait ce qu'il avait voulu. Et c'est pour ça que son géant Gargantua a de quoi avoir quelques idées sur l'éducation et d'inventer cette abbaye, car la sienne d'éducation à Gargantua, elle commence mal. Grand Gousier, son père, la confie à tout un tas de moines, et je cite Rabelais, Grand Gousier s'aperçut que bien que Gargantua étudiât sérieusement et qu'il y employât tout son temps, rien ne lui profitait, et pire, il devenait fou, niais, stupide et de plus en plus sot. Forcément, Grand Gousier est dégoûté. Hein. Et alors, il s'active, il met la main sur un gosse du même âge que Gargantua, mais formé, lui, par un autre genre de précepteur. Il fait causer le môme devant Gargantua, afin que celui-ci ait envie d'être moins sot, et ça fonctionne. Enfin, ça va fonctionner, parce que, sur le moment, Gargantua, il a à peu près 12 ans, donc ça fait déjà 8 ans qu'il se fait farcir la tête depuis des années de savoir auquel il comprend rien, parce qu'on lui explique mal. Gargantua, ça lui fait comme un coup de mou, je cite Rabelais, il se mis à pleurer comme une vache, si bien qu'on ne put pas plus en tirer un mot qu'un paix d'un âne mort.
C'est visuel.
Toujours l'image juste se Rabelais. Mais pas d'affolement plus tard, quand Gargantua décide de bâtir l'abbaye de Thélème, les mots, il les a retrouvés, les mots et les idées. Alors techniquement, en gros, ça sera le château de Chambord, hein, pour vous faire une idée, mais sans horloge ni cadran. Hein, quoi ? Mais comment on va faire pour s'organiser ? Eh bien, Rabelais dit, les tâches seront réparties selon l'occasion et selon les opportunités. Parce que, dit-il, la plus grande folie du monde, c'est de se gouverner au son d'une cloche et non selon le bon sens et l'intelligence. Si vous n'étiez pas certain du sens du mot utopie, je pense que là, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Et alors ? Et alors ? Qui n'a pas besoin aujourd'hui et tous les jours d'un peu de rêve, Guillaume Meurice ? D'une meilleure version de soi-même, comme disent les coachs en développement personnel, mais version collective, ensemble. N'est-ce pas émouvant de lire ce texte, écrit il y a 5 siècles ? Écoutez, les gens libres, bien disposés, bien instruits, vivant en bonne entente, ont un penchant, un aiguillon, qui les pousse naturellement à la vertu et les détourne du vice, et qu'ils nomment l'honneur. Un texte également garni de paix d'âne mort, c'est vrai, et autres joyeusetés avec des gens bien ivres, des bien mangeants, des bien vivants, parce que rire nettoie l'âme et le corps, mais aussi de cette substantifique moelle que nous promet Rabelais dès le prologue et que vous trouverez aisément si vous voulez bien vous donner la peine de passer outre votre inquiétude sur le thème de « Non mais Rabelais, c'est pas pour moi, j'ai trop peur de rien comprendre ». Cette traduction dont je vous parle est faite pour vous. Et puis, au hasard, vous tomberez sur une phrase qui fera votre miel et remplacera votre vieux, usé, fatigant, trop bon, trop con. Ça sera « Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra. » Merci, bisous, merci.
Merci, Juliette Arnaud. Et donc, ce moyen français
voilà
est traduit par...
En français tout à fait moderne, vous l'avez entendu. Vous avez tous compris toutes les références que j'ai faites par un monsieur qui s'appelle Claude Pingano et c'est aux éditions Arléa.
Et voilà, comme toutes les références que vous pourrez trouver sur notre site franceinter.fr et réécouter la première partie en podcast ou en vidéo, bien sûr, Juliette Arnaud. Frédéric Sigrist nous accompagne jusqu'à 18h, pendant que Guédré s'installe au piano. Un petit mot sur le dernier épisode en date de votre podcast France Inter, Blockbuster ? Quand est-ce qu'on peut l'écouter et de quoi s'agit-elle ?
Le dernier, c'est un retour sur l'histoire des samouraïs dans la pop culture. C'était hyper intéressant. Et le prochain, c'est le jeu vidéo Elden Ring.
Ok, qui sera en ligne quand ?
La semaine prochaine.
C'est tous les 15 jours à peu près.
C'est tous les 15 jours. Voilà, il me faut bien ça. Bah, voilà, bien je sûr. Fais une émission.
Votre
je me
petite
repose
dose
une semaine,
de Sigrist, et voilà. Et avec un petit peu de rap aujourd'hui à la fin de ce Par Jupiclas. Alors, quand il n'y a pas de violon le mercredi avec Marina Chiche, il y a un piano. Donc, Guédré fait un usage assez particulier pour adresser toujours un message aux enfants. Et c'est toujours doux, voire romantique.
Bien sûr.
Laissez-vous aller, c'est Guédré.
Bien sûr.
C'est irresponsable, c'est très polluant, c'est pas très développement durable. Pour les téléphones aussi, la question se pose. Mais eux, contrairement aux tout petits, ils servent à quelque chose. Un enfant, ça n'a pas de dictaphone, ça fait pas appareil photo. Ça coûte plus cher qu'un iPhone, mais niveau option, c'est zéro. Décider de polluer la terre, c'est jamais facile. Alors autant le faire pour des choses utiles. Les enfants, c'est non. Les téléphones, c'est oui. C'est pas compliqué pourtant de faire des choix dans la vie. On l'a assez répété, la terre est en train de crever. On ne peut plus fabriquer autant de choses qu'on le voudrait. Quitte à avoir collé aux fesses un truc qui épuise les ressources, autant qu'il fasse GPS et donne le cours de la bourse. Et les gaz à effet de serre, quitte à en émettre à la pelle, autant le faire pour un truc qui va à la poubelle. Car pour peu que ton gosse soit tout moisi, en plus de pourrir la planète, tu t'es bien pourri la vie et t'as pris pour perpète. Les enfants, c'est non. Les téléphones, c'est oui. C'est pas compliqué, pourtant, de faire des choix dans la vie. La seule galère, si on ne fabrique plus personne, c'est qu'on n'aura plus par qui faire faire des téléphones. Il faut de tout petits doigts pour assembler les toutes petites pièces. Et les mines de cobalt sont pas adaptées aux grosses fesses. Et quand bien même on trouverait un autre moyen de faire des portables, s'il y a personne pour les acheter, c'est bien regrettable. Peut-être qu'avant d'arrêter les bébés, arrêtons d'autres trucs qui polluent, juste pour voir comment ça fait. Puis si ça change rien, au pire, on les tue. Les enfants, peut-être. Les téléphones, peut-être pas. C'est quand même un peu casse-tête de savoir ce qu'on arrête ou pas.
Merci Guédré. On parlait donc des téléphones modernes, hein, sans cordon ombilical, bien sûr. Vous jouez, Guédré, vendredi à Mozac.
Et oui, la ville du rock.
Ah ouais?
Ah bah, grosse scène rock à Mozac.
Ah ouais, ah ouais, oui, d'accord. Oui, le 15 avril, vous serez à Paris au Café de la Danse.
Oui.
Le 22 avril à Bordeaux et le lendemain, le 23, à Lyon, car vous êtes en tournante, je le rappelle.
Absolument.
Guédré, avec nous. Et le mercredi, pour notre plus grand plaisir, dans un Par Jupiclas, venez réintégrer la troupe dans ce studio, Guédré. Et Alex, dites-nous, qui est là aussi?
Eh bien, Guédré, la reine de Mozac. Mais il y a aussi...
Comme on m'appelle désormais.
Juliette Arnaud, là, il y a Véran qu'on a entendu. Une Orestie Polly Girardot et la masterclass de monsieur Frédéric Sigrist. Mais avant ça, l'homme qui joue contre la montre en ce moment, équilibrer le temps de parole des candidats à la présidentielle, car dans ce pays, on estime qu'ils ont tous les 12 autant de choses intéressantes à dire.
Et c'est vrai.
Lol, Guillaume Meurice.
Alors, je continue mon équilibrage. Mais oui, alors aujourd'hui, on va s'occuper de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, les Stone et Chardin version casque à pointe. Alors, je vous rappelle le principe, c'est 1 minute 20 par candidature, par candidat, quoi. Donc ce matin, je suis allé à Hyères, dans l'Essonne, c'est la ville de Dupont-Aignan. Et oui, Hyères, voilà, on pourrait l'appeler avant-hier. Hein, vu l'état d'esprit général, on entend des choses assez proches de l'entre-deux-guerres. Et la moyenne d'âge correspond aux critères Tinder d'Alex. Hein, avant-avant-hier, on pourrait dire. Donc je suis allé voir les militants, évidemment, des deux camps qui tractent, qui sont là sur les marchés. Alors commençons avec ceux de Dupont-Aignan, qui a donc l'étoffe d'un président. Hein, comment il est ?
Extra.
Extraordinaire.
Extraordinaire. En plus, il a marié ma fille.
Ah oui.
Je voterai au premier et au deuxième.
Ah, au deuxième tour, vous voterez du Poignant aussi.
Même qu'il ne votera pas, mais enfin.
Vous gardez des bulletins du premier tour pour les mettre dans l'enveloppe au deuxième.
Ouais, ouais.
Voilà, ça c'est un radicalisé. Là, il n'y a qu'à hier que vous pouvez trouver des gens comme ça. Hein. C'est un fondamentaliste du Poignant, on ne trouvera pas mieux. Je pense qu'il a un tatouage, hein, NDA du Poignant. C'est pour lui ce que Maître Capello est à la Elia, hein, je pense. Voilà, enfin une analogie. Allez, on continue sur le fond. Parlons de fond avec une question toute bête. Quel est son programme?
Bah, son programme, c'est déjà que je connais personnellement depuis longtemps. Qu'on critique et puis on commence à reprendre le dessus, c'est que bon, on veut faire de plein de choses en France. Ça fait longtemps qu'on dit ça et puis rien n'est fait.
Mais alors lui, qu'est-ce qu'il propose de concret?
Ben lui, ouais. Bon, le programme, on le connaît. C'est bon, ben, il y a de bonnes idées.
Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai une minute là, donc on va pas faire toutes les bonnes idées non plus d'un coup. Voilà, sinon on finit pas avant minuit. Donc moi j'en ai retenu une de super idée. Alors elle est véridique, hein. Vous pouvez vérifier. Du Poignant, il veut mettre Didier Raoult ministre, oui, de la Santé. Bonne idée ou pas?
Il est cash aussi. Bon, ce qui plaît pas, c'est sa présentation physique. Bon, avec les cheveux longs, pointués, ben, je trouve que ça passe mal. Hein.
Ouais, ce qui plaît pas, c'est ses méthodes aussi.
Ses méthodes aussi, oui.
Ben, ses résultats.
Entre autres.
Oui, est-ce, oui, que c'est une bonne idée alors de le prendre comme ministre de la Santé?
Oui, pourquoi pas.
Mais si ses méthodes sont frauduleuses et que ses résultats sont pas bons, parce que c'est quand même une bonne idée.
Ça se discute.
Ouais, faudrait peut-être voir. Ouais. Vu qu'il tente de soigner les grippes avec des infusions de chaussettes et du laurier teint, peut-être on va discuter un petit peu avant. Mais avant, revenons aux différences de fond qui peut exister entre Dupont-Aignan, Zemmour et Le Pen.
J'ai rien contre Zemmour ni Madame Le Pen. Ils ont leurs idées aussi. Mais je trouve que Monsieur Zemmour, j'ai rien contre. Hein. Je trouve qu'il est trop direct et trop franc. Et ça plaît pas. En plus, bon, il est contre les immigrés, etc. Madame Le Pen aussi, je dirais.
Mais Dupont-Aignan, enfin, non?
Dupont-Aignan aussi.
Voilà, oui, c'est ça, il y a pas mal de différences quand même. Hein. Il y en a un qui trouve que le problème, c'est les Arabes, l'autre, c'est les Sarrasins, et puis l'autre, c'est les Maghrébins. Donc on est vraiment sur tout un panel comme ça de différents. D'ailleurs, allons voir du côté des soutiens de Marine Le Pen.
Je trouve que ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est vrai que les migrants, il y en a trop. Je suis d'accord avec ça.
Il y en a combien, alors?
Bah oui, combien,
hein? Alors oui.
Je sais pas.
Non, vous savez pas?
Non.
Comment vous pouvez savoir qu'il y en a trop si vous savez pas combien il y en a?
Allez voir tout ce qui se passe. C'est pas tous eux, mais bon.
Oui, voilà, c'est pas bon, hein. Toi, TMTC, toi-même, tu sais, j'ai envie de dire, hein, faut voir ce qui se passe. Alors, c'est pas ailleurs qu'il se passe des choses, parce que niveau mixité et diversité, on se croira à la rédac de France Inter. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée générale. Non, le problème de Le Pen, c'est quand même son amour pour Poutine.
Hein. C'est un peu ambigu, mais c'est difficile de démêler le faux du vrai. Maintenant, il y a quand même un capital de sympathie important pour les Ukrainiens. Hein.
Ah oui, mais alors elle était plutôt du côté de Poutine pendant très longtemps.
Oui, elle est un peu du côté de Poutine, je pense que...
Parce qu'elle a toujours vanté même les mérites de Poutine, elle a dit que...
Oui, bien sûr, mais bon... Maintenant, France Inter, c'est pas tellement sa radio bolcho, hein.
Oui, alors c'est pas tellement ma question, hein, non plus, hein, voilà. Hein, bon, puis le bolchevisme, c'est quand même, c'est russe à la base. Donc il va falloir se mettre d'accord. Allons voir un autre soutien.
La Russie, ça se tenait tranquille depuis un certain temps. Moi, je ne sais rien. J'ai un petit-fils, il y a été là-bas. Il dit, c'est propre comme tout. C'était sympa, il était...
C'était un beau pays, alors.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y avait déjà pas des problèmes, quand même, de journalistes tués, d'opposants enfermés?
Ah oui, mais là, on n'en sort pas.
Hein. Ouais, si on commence, aller par là, non. C'était sympa. On l'avait pas vu venir que Poutine était un dictateur, vu qu'il faisait changer la Constitution pour rester au pouvoir. On est sur le cul, finalement. Mais bon, ça, c'est de l'international. Ce qui intéresse les Français, c'est le national et ce que va faire Marine Le Pen.
Elle a l'air d'avoir... ce qu'elle nous promet, là, ça a l'air sympa. Pas, hein, pour les gens, quoi, qui ont peu de moyens et tout, ça va aider et tout, quoi.
Qu'est-ce que vous aimez alors dans le programme?
Alors, le financement de bien des domaines pour la rehausser le SMIC.
Marine Le Pen, elle est contre l'augmentation du SMIC?
Ouais, elle est contre.
Ouais.
Ah bon?
Bah oui.
Ouais, elle est contre ça.
Ouais.
Ah bon, alors là, je suis à côté de la plaque.
Ouais, s'il y a une plaque, ouais, il est pas dessus. Hein. Là, il est vraiment pas dessus. Voilà, c'est bien les militants de Le Pen, ça change. Hein. Voilà, il est à deux doigts de se rendre compte que les candidats d'extrême droite n'en ont rien à foutre des pauvres, mais qu'ils aiment juste désigner des boucs émissaires pour asseoir leur système de domination, hein, qui est le capitalisme. Bon, je m'arrête là parce que je crois que j'ai déjà commencé ma chronique de demain avec Philippe Poutou.
Merci Guillaume Meurice. Oui, c'est quoi la suite demain alors?
Ben Philippe Poutou, il m'en reste un, c'est Philippe Poutou.
Ah, c'est tout pour rééquilibrer.
Ça y est, j'ai fait les 11 autres. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Mais alors, est-ce que les questions
C'est la grande question qui se pose.
Est-ce que vos questions sont incluses dans le temps de parole?
Alors, le CSA m'a dit que oui. France Inter me dit que non. Donc, j'ai dit, à un moment donné, démerdez-vous.
Ah. Vous avez même dit, allez vous faire cuire le cul.
Oui, c'était mon expression. Que...
Ah oui, c'est le it's the new selon les chiffres de la police, selon les chiffres de la Ligue. Très bien. Bon, on arrangera ça demain. Il nous reste demain pour équilibrer. Demain. Donc, demain, rédacteur en chef et production de cette émission, le chronomètre du CSA. évidemment, parce que personne n'y échappe, bien sûr. Passons aux exercices.
Et allez. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a eu 11 hologrammes en simultané hier. Lui était à Lille. Mais c'est pas la première fois qu'on utilise des hologrammes. Quand l'a-t-on déjà fait? Réponse A. La campagne d'Anne Hidalgo est faite par hologramme. Et c'est pour ça qu'elle est transparente. Réponse B. Depuis le début du quinquennat, c'est l'hologramme de Jean-Michel Blanquer. Le vrai est à Ibiza. Réponse C. Emmanuel Macron est un hologramme de Valéry Giscard d'Estaing contrôlé par Nicolas Sarkozy. Et réponse D. Depuis le début de l'émission, c'est l'hologramme d'Hippolyte Girardot autour de la table, mais il n'est pas allumé. C'est pour ça qu'on l'entend peu.
Ne vous inquiétez pas, on va l'entendre dans quelques instants.
Je trouve le bouton, surtout. Je trouve le bouton, c'est bon. Mais...
Oui, il vous reste un petit peu de temps, mais ça va être okay. À vous bientôt. Mon exercice. Attention, depuis cette semaine, que contient la surprise du Kinder? Petit A, la salmonellose. Petit B, la listériose. Petit C, le programme économique de Marine Le Pen. C'est le même effet. C'est le même effet. Petit D, un bon d'achat pour une pizza Buitoni fraîche. Petit E, une bonne assurance maladie. Guillaume.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas souhaité participer à l'émission politique de France 2 hier soir, mais qu'avait-il de mieux à faire? Réponse A, il a essayé de chercher des choses à défendre dans son bilan. Je ne dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Réponse B, il a passé la soirée à se demander comment il pourrait faire comprendre qu'il n'est pas méprisant envers ces grosses merdes de Français. Réponse C, McKinsey lui a conseillé de bien la boucler jusqu'au premier tour. Et réponse D, il voulait pas croiser Philippe Poutou qui l'attendait avec un pied de biche.
C'est plutôt les clés à molette, j'ai l'impression.
Ou des clés à molette.
Bah, ouais, d'accord. Petite clé de 12, quoi. C'est ça. Merci Guillaume Meurice. Et je rappelle que tous les énoncés, les corrigés.
Surtout les corrigés. Les gens sont très demandeurs.
C'est vraiment. Parce que là, ils jouent chez eux, les gens.
Souvent, quand on les met pas dans les 5 minutes qui suivent l'émission, déferlante de mails, réponses.
C'est vrai. Des fois, on fait exprès, ça fait monter le nombre de commentaires Facebook. Ça, il faut le dire aussi. Bon, Hippolyte Girardot, je ne sais pas si vous avez trouvé le bouton. Je ne sais pas si c'est une métaphore non plus. Je ne veux pas savoir.
Non, mais... Ah, c'est remarqué. Mais en même temps, non. Ce que je veux dire, c'est que la configuration du studio est telle que je suis là, en fait, je suis au spectacle en train de vous voir. Donc, d'un seul coup, je me sens un peu invité. C'est sympa. Alors, oui, donc dimanche, on vote. Hein, voilà, bien sûr. On peut lire les promesses, enfin les programmes. Mais au fond, regarder les affiches dit déjà beaucoup de choses sur eux et aussi d'ailleurs sur nous. Quand on regarde, la plupart insistent toujours sur le ensemble, sur le nous, et pourtant pas de référence à peine au parti qui devrait normalement agréger ce fameux nous. L'exemple auquel je pense, c'est un vieux parti ex-populaire qui met en vedette un homme séduisant sur fond violet, et on dirait la pub d'un club libertin. Et là, je me suis dit, mais oui, bah d'ailleurs, et pourquoi pas, le partage sexuel, c'est un partage qui en vaut d'autres, voilà. Et surtout en ce moment, oui. Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, le sexe, c'est un souci. Bon, c'est toujours un souci, mais en général, c'est un souci perso. Là, non, c'est un souci général qui affole absolument les statisticiens, les sondeurs. Car croyez-le ou pas, on fait de moins en moins le sexe. Voilà. Pour les sondeurs, carrément, c'est combien de fois pas on le fait. C'est ça, la question. Et des fois, mettre les phrases dans le mauvais sens, c'est plus éloquent, je trouve. Bref. Donc, combien de fois pas on le fait, le sexe. Voilà. Et la période, oui, parce que la période post-Covid, pour ces explorateurs de notre vie animale et cérébrale préférée, est une période unique et totalement expérimentale. Un ralentissement, voire un arrêt des habituelles activités humaines dans le monde pendant presque un an. Et pendant des mois, on a réduit, à cause du confinement, nos activités sexuelles pour la plupart. Puis, à cause du masque, on a réduit tout autant nos possibilités de rencontres, dont on sait, ou plutôt que rappeler il faut, sont la première étape nécessaire, obligatoire, avant le coïtus. Il y a encore quelques malotrus, au trou, comme disent les Lacaniens, qui préfèrent zapper cette première étape. Mais désormais, ce sera eux qu'on zappera. Bref, les scientifiques du sexe s'inquiètent. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle un sursaut sexuelle. Pas de folie amoureuse, comme il y a eu après la dernière guerre mondiale, par exemple, avec la merveilleuse embellie de natalité qui a créé cette génération fantastique, exceptionnelle, de baby-boomers, dont votre humble chroniqueur a l'honneur d'en être un splendide spécimen, bien qu'un peu jeune, c'est vrai. Mais ne parlons pas de mon mariage. Aujourd'hui, rien, pas de frémissement des courbes. Les psychologues évolutionnistes disent que nous développons dans les périodes incertaines, incertaines, on se demande quand c'est pas incertaine période, enfin passons, un système immunitaire comportemental. On n'a pas besoin d'eux, en fait, pour comprendre que oui, aujourd'hui, on met à peine le nez dehors et avec prudence, alors pour Popol, excusez-moi, on va attendre un petit peu. Certes, toute prudence est honorable, et ma génération qui n'en avait aucune a foutu la merde, bref, mais quand même, what the fuck? Ou mieux, non, the fuck, what? Car en fait, la pandémie a bon dos, si je puis dire, en parlant de faire la bête à deux dos. Alors qu'on sait que cette atonie sexuelle précède cette période. Ça existait avant. But why, why? Eh bien, même si les causes sont multiples, toutes convergent vers un concept qu'on pourrait réduire en un seul mot, la solitude. Il y a de la solitude à l'œuvre quand on est face à un gangbang, mais qui se joue sur votre écran maintes fois nettoyé. Il y a de la solitude obligée quand vous êtes une femme et que vous dites non à des machos archaïques et des pratiques sexuelles humiliantes. La solitude est partout et envahissante pour des personnes en situation précaire, sans temps libre. La solitude accentue la solitude. En fait, la solitude aujourd'hui est immense dans ces sociétés individualistes que le capitalisme conquérant des années 80 a fabriquées pour en faire un monde sans pitié. Donc, dimanche, on vote. Ne vous trompez pas, votez contre la solitude et pour le partage sexuel, pour le grand nous à poil, pour la solidarité du câlin, la partouze de la tendresse, la baise partagée et consentie. Votez droit, votez humide, votez coïtus.
Hippolyte Gérardot.
Je ne sais pas si ça rentre dans la parole.
Vous m'avez fait peur, Hippolyte. Tout le monde va voter dans ce studio.
Bah oui, vous, moi je ne peux Charline. Pas.
Non, je ne peux pas.
Nous sommes étrangers.
Hein. Vrai, étrangers. Je pose la question et
moi aussi.
D'accord.
C'est pour ça que nous pouvons si librement parler de la politique française.
C'est vrai. Je pose la question et j'oublie que moi-même je n'y vais pas. Oui, mais ça n'est pas de l'abstention, je tiens à le dire. Voilà.
Vous êtes capable d'y aller pour faire la queue.
Moi, j'irais bien, en fait.
D'aller croiser les champs.
J'irais bien, ouais, en fait.
Venez.
Ouais.
Mais oui.
Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais.
Venez, on va voter Valérie Pécresse pour voir ce que ça fait.
Quelle idée. Oh, j'espère que ce qu'on vient de dire ne tombe pas dans le temps de parole.
Ah, je pense un peu quand même. Je pense quand même un peu.
Comment on va faire?
Heureusement, le coïtus, on ne sait pas. Non, c'est bon. Le coïtus n'a pas de candidat.
Ça serait formidable si ça pouvait.
Merci, Hippolyte. On écoute Bertrand Belin.
Je viens d'une longue lignée d'ivrognes. Trouble fait. Gâcheur de noces, épouvantail d'abrubus, maître de chiens, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de freins, de tout sexe. Seigneur de châteaux renversés, chers à dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle, tout, tout, que dalle, tout, 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 que dalle.
Bertrand Belin chante Que dalle tout. Quand dire, là, Elia Véron, que dalle tout? Qu'est-ce que... Que dalle?
C'est pas plutôt une question pour Hippolyte Girardot.
Ça, je suis spécialiste des trucs à l'envers. Mmh,
la patate chaude. Je sens que vous êtes embêté. Oui, c'est ça. Je sens que vous êtes embêté. Je sens que vous faites appel à l'équipe
non,
en même temps.
Non, mais sinon, oui, tu peux dire oxymore ou antithèse, enfin, réunir deux choses différentes. Oxymore, c'est cette obscure clarté. Donc, normalement, deux choses différentes. Et donc, que dalle tout, on pourrait dire que c'est oxymore. Si vous voulez absolument que je vous sorte une figure de style.
J'étais sûre que vous alliez trouver une réponse, là, Elia Véron. Merci. Eh bien, je pense que l'heure de la Jubi Masterclass de cinéma a sonné. Aujourd'hui, elle vous est offerte par Frédéric Sigrist. Nous sommes tout ouïes.
Oh là là ! Merci, merci Charline. Bon, alors, c'est pas vraiment une surprise pour les éditeurs et pour vous. Vous le savez, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les super-héros. Hein, le côté homme ou femme providentielle, tout ça, ça me passionne. Superman, Thor, Jean-Luc Mélenchon, j'adore. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un héros pas très bien servi, selon moi, au cinéma. L'incroyable Hulk. Je rappelle à tout le monde, Hulk, c'est cet homme, Bruce Banner, qui devient vert quand il se met en colère. Alors, ce qui est bien évidemment de la science-fiction, car tout le monde sait qu'un Français en colère ne devient pas vert, mais lupiniste. Et Hulk, c'est un peu le Jean Lassalle du monde Marvel. C'est-à-dire que tout le monde le connaît, il fait des grosses colères, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais personne ne le respecte vraiment. Rendez-vous compte, depuis que Marvel Studios monopolise les cinémas avec ses films depuis plus de 10 ans, on en est à 27 films quand même, hein, sans compter les séries. Marvel Studios, ils sortent des films comme Marlène Schiappa écrit des livres. La seule différence, c'est que pour Marvel, il y a une vraie demande du public. Hulk, lui, n'a eu, tenez-vous bien, droit qu'à un seul film solo en 2008 réalisé par un Français, lui le Terrier, avec Edward Norton qui jouait Bruce Banner. Iron Man, 3 films. Captain America, 3 films. Thor, 3 films. Ant-Man, l'homme fourmi, 2 films. Sérieusement, Ant-Man, 2 films. Mais il est tout claqué son pouvoir. C'est quoi ça? Attention, je peux devenir aussi petit qu'une fourmi et te pourrir ton pique-nique. Non mais franchement, Hulk, lui, un seul film. Tout ça pour des sombres histoires de droits de distribution avec les studios Universal. Franchement, ça se fait pas. Alors que Hulk est un des héros Marvel les plus intéressants d'un point de vue psychanalytique parce qu'il interroge notre propre rapport à la colère. Hulk, c'est un héros qui carbure à la colère, comme Francis Huster. Ça, c'est Hulk. Ça, c'est Francis Huster.
Le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi !»
Mais lequel est-ce? Lequel est-ce? On les confond. Hulk, c'est l'incarnation de la rage qui sommeille en tout à chacun et qui peut se réveiller n'importe quand. Juliette Arnault apprend que l'Happy Hour s'est achevé il y a une demi-heure. Ah, Hulk! Là, Elia Véron entend quelqu'un dire « C'est de ça que je parle » au lieu de « C'est ça dont je parle !» Bim! Hulk! Alex qui voit qu'il y a un poste de chroniqueur chez Equidia qui s'est libéré et qu'on ne lui a pas proposé. Ah, Hulk! À la moindre contrariété, Bruce Banner fait péter ses chemises et devient Hulk, une créature enragée. Oui, Charline, Hulk et les femelles ont ce point commun. Quand ils sont pas contents, ils gueulent torse nu. Alors, d'ailleurs, on dit souvent « La colère est mauvaise conseillère ». La colère. Là, on n'a pas eu à se battre pour féminiser le mot. Hein. La colère, c'est féminin. La rage, c'est féminin. Au masculin, on parlera plutôt de courroux. La vengeance divine et juste du patriarche dans les saintes écritures. Alors la colère, c'est un sentiment très mal vu dans nos sociétés modernes. Tous les jours, on nous pisse dessus sans nous faire croire qu'il pleut, mais faut pas s'en plaindre. T'es noir et tu dénonces les discriminations à l'embauche, au logement ou au contrôle aux faciès, t'es en colère. T'as un discours victimaire. T'es une femme et tu dénonces les inégalités salariales ou le harcèlement de rue, t'es en colère d'ivoire. T'es hystérique. Comme dirait Darmanin, calmez-vous madame, ça va bien se passer. Par contre, t'es Finkielkraut et tu te mets en mode essorage dès que tu vois un point médian avec l'écriture inclusive, t'es pas en colère. Tu soulèves un réel débat de société qui fait fi de la bien-pensance. Et Hulk, c'est pareil. C'est un héros, mais pourtant, il est pourchassé par l'armée car sa colère, elle, est jugée dangereuse et inacceptable. Un autre aspect que l'on a rarement vu traité dans un film solo, c'est le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde du personnage voulu par Stan Lee et Jack Kirby, les créateurs du personnage, en 1962. Bruce Banner déteste Hulk, tout comme Hulk déteste Banner. Banner, qui enfant a été victime de violence, et ça a son importance, déteste cette partie de lui qui échappe à tout contrôle. Et Hulk déteste le chétif Banner pour sa fâcheuse tendance à tout refouler. Ce que nous apprend Hulk, finalement, c'est qu'on a tous une colère en nous. Une colère qui peut certes détruire, mais de temps en temps qui peut aussi sauver des vies. Et lorsque Greta Thunberg crie avec rage à l'ONU « How dare you ? Vous avez volé mon enfance à un monde d'adultes qui calent leur table basse avec les rapports du GIEC », Greta, c'est un peu Hulk avec des couettes. «
Générique de fin de la série.
De la série, bah, avec Bill Bixby et Lou Ferrigno.
Merci Frédéric Sigrist et nous aussi.
Est-ce qu'on peut dire que Frédéric Sigrist c'est Walkman? Parce que vous êtes très woke.
Si vous voulez, j'ai aussi un autre exemple de colère hulculéenne.
Taisez-vous, c'est moi l'actualité.
On avait un sous le coude. Merci Frédéric Sigrist. On va passer au dessin, petit dessin. Alors, allégorie, art abstrait, caricature ou symbolisme, laissez-vous aller. Vous devrez sans doute y avoir recours pour le dessin du jour. Attention, je vous propose de dessiner l'abstention. Ça pourrait servir, mettez-y un copyright. Merci à tous les amis. Merci à Frédéric Sigrist qu'on va retrouver dans ses podcasts Blockbuster et probablement cet été, n'est-ce pas?
Exactement.
Ah, c'est un scoop.
Je crois à votre créneau.
Merci.
D'ailleurs.
Oh là là. Merci à tous les amis. Un petit message pour les grands pitchouns, les jeunes qui ont l'âge de sortir dans les bars ou les boîtes. Dans les téléphones sonnent ce soir, Fabienne Synthès parle de balance ton bar, car être drogué à son insu arrive de plus en plus fréquemment. Si ça vous est arrivé, venez témoigner anonymement au 01 45 24 7000. Allez-y, n'hésitez pas, c'est ce soir. Je vous dis à demain, nous recevrons Hervé. Il est SDF et désormais écrivain.
Oh mon gars, je me lève tôt, maintenant il y a rien qui bosse, bordel.
Pardon.
Vous croyez où là? On est dans la rue, il y a des gens qui dorment, merde.